Merci de rester avec nous dans Au cœur de l'islam.
Nous allons faire des émissions en direct.
Talabul ilm faridatun ala kulli muslimin.
Et par extension wa muslima.
Est-ce qu'il faudra tirer ces références des savants de sa région?
Nous sommes tenus d'être musulmans et non d'être des malékites. La connaissance est celle des anciens. Mimouna ta'arf rabbi wa rabbi ya'arf mimouna. Mimouna kent jahad. Mimouna n'était pas une traître.
Il est considéré comme le guide des musulmans, ce qui inclut le dernier monothéisme.
Vous avez des coranistes, c'est une secte. Vous avez les hadathiyin, les modernistes, qui visent à annuler tout ce corpus que nous appelons sunna mutahara sahiha. Le vrai croyant s'occupe de sa foi, le mauvais s'occupe de celle des autres.
C'est notre propos sur Alger Chien 3 depuis que l'on a commencé à disserter autour de tous les éléments qui constituent une bonne base pour la pratique claire et correcte de l'islam. Au cœur de l'islam, c'est tous les vendredis à 5h et à 14h sur Alger Chien 3 et sur la page x.com. Au cœur de l'islam, Chien 3.
Au cœur de l'islam. Une émission produite et animée par Kamel Shekat et Bouchra Yahya.
Madame, Monsieur, bonjour, salam, azoul, marhaba bikoum sur les ondes positives de Au cœur de l'islam, une émission quotidienne durant ce mois de Ramadan 1447. Puisse Dieu faire que tous nos quotidiens soient empreints de l'énergie et de la miséricorde de Ramadan, une énergie qui, selon les doués de sagesse, nous permet d'affronter le mal tout au long des 12 mois de l'année. Salam alaykoum Kamel Shekat.
Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Nous sommes le 9e jour de Ramadan et nous vous avons proposé durant cette première semaine des thématiques variées mais qui s'inscrivaient toutes dans le registre de l'éveil et de la conscience. Alors il était question pour le premier chapitre de quelques numéros autour du sens du jeûne, le sens intérieur, surtout comment arriver à un jeûne juridiquement correct. Puis nous avons abordé la question des mythes fondateurs du peuple juif. Nous avons peut-être paraphraser un des livres de l'académicien Shlomo Sand. Rappelez-vous ce hadith du noble prophète Ibn al-Habib al-Mahboub, qiblatul aashiqin alayhi salat wa ala alihi afdalu salawat wa taslim balliru anni walau aya wa hadithu an bani Israël wa la haraj. Et de cette haute station d'éveil, nous avons entamé la thématique du messianisme et les leçons à tirer de Hujjatul Wada' et tous les événements qui concourent à la réalisation et à la survenue de la période eschatologique, la période de la fin des temps. Alors, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que cela vous paraît utile et important ou bien on revient aux choses simples de la pratique cultuelle, Kamel Shekat? Est-ce que c'est un cheminement logique ou on doit passer à autre chose?
Écoutez, ça fait partie d'une culture que je qualifierais du moment, dans la mesure où chacun doit avoir un minimum de connaissances autour de tous ces sujets. Autant ce qui concerne l'actualité que vit la nation musulmane, que l'eschatologie dans laquelle s'inscrivent beaucoup des plans, je dirais, qui se tissent contre cette nation musulmane. Le problème, il ne réside pas dans les ennemis ou les détracteurs de l'islam. Le problème réside en nous, musulmans. Quand nous avons, souvenez-vous, parlé de l'antéchrist, le Messie Dajjal, nous avons bien expliqué que les hadiths du messager de Dieu, alayhi salatu wasalam, visaient à nous faire comprendre qu'il fallait travailler sur nous-mêmes et pas sur l'antéchrist. Comment il est, que pourrait-il faire, etc. Mais malheureusement, comme le dit si bien l'adage, quand le philosophe montre la lune, le philosophe, ça n'est pas nous, hein, mais quand le philosophe montre la lune, l'ignare a tendance à regarder le doigt du philosophe plutôt que la lune. Et nous avons beaucoup, beaucoup de gens qui focalisent sur cette entité maléfique, malfaisante beaucoup plus, qui est l'antéchrist. Et nous avons expliqué que l'antéchrist, c'est le miroir, c'est le côté sombre de Jésus, alayhi salam. Je me permets une petite supposition, et là, il va falloir que nous nous comprenions. Je me souviens de notre maître, Cheikh Mohamed Sherif Gahar, qui me disait, « Kullu tafsirin salihun li zamani », c'est-à-dire que notre lecture du Coran, elle doit prendre en considération la culture dans laquelle nous baignons. Et à partir de là, tant qu'une exégèse ou une interprétation d'un verset coranique ou d'un hadith du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, ne met pas en défaut une pratique religieuse, le problème ne se pose plus. Comme le disait justement Cheikh Gahar, rahmatullahi alayhi, « Madame al-amru la yu'attilu l'ahkam, fa kullu tafsirin salihun li zamani ». Donc, quand je parle, moi, de l'antéchrist, je sais que le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, a subi, tout le monde connaît hadith tchak sadr, le jour où les anges sont venus, lorsque le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, était à l'été chez les Bani Sa'd, chez Halima Sa'diya, et ils ont ouvert sa poitrine, ils ont purifié son cœur de tout ce qui pouvait, on va dire, l'entacher, en termes, ou le souiller en termes de mauvaises actions. Selon les narrateurs de la tradition, la chose s'est répétée à 3 reprises. Il n'y a pas eu une seule hadith tchak sadr, comme on dit, ce qui est rapporté dans sourate Shrah, là où il est dit « Alam nashrah laka sadrak ». Tout comme cela s'est produit avec le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, pour le rendre impeccable ou infaillible, c'est-à-dire ma'soum, je pense que la chose s'est faite avec tous les messagers de Dieu, alayhi salatu wassalam. Et quand je parle de Jésus, alayhi salam, souvenez-vous que nous avons dit que tous les êtres humains à leur naissance sont en quelque sorte piqués par le diable, ce qui provoque ce cri de la naissance. 2 seules personnes n'ont pas subi cela, c'est Marie, alayhi salam, et son fils Jésus, alayhi salam. Et quand nous avons lu les versets relatifs aux djinns qui ont écouté le Coran pour la première fois, ils ont dit « Nous avons entendu un livre merveilleux qui a été révélé après celui de Moïse, alors que nous savons « Unzila min ba'di Moussa », alors que nous savons que le Coran a été révélé au messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, après l'évangile de Jésus. Maintenant, quand bien même l'évangile de Jésus ne constituait qu'un enseignement spirituel, ce n'était pas un livre de loi, il n'en demeure pas moins que c'est un écrit révélé. Et si nous remontons beaucoup plus haut dans l'histoire, nous savons que l'un des descendants directs d'Adam, alayhi salam, qui est Seth, chiite dans la tradition islamique, il a reçu des feuillets, suhuf. Tout ceci indique que Jésus, déjà, de par sa naissance miraculeuse, son père, il a été en quelque sorte purifié à la base. Et l'antéchrist, le Messie ad-Dajjal, n'est que le miroir reflétant le côté obscur de cette entité bienfaisante que nous appelons Jésus. Merci. Et de même que Jésus, alayhi salam, ait été doté de rupture de l'habitude que nous appelons des miracles, la guérison du lépreux, de l'aveuglené, le fait de ressusciter les morts, la multiplication de la nourriture ou du pain, eh bien l'autre, le Messie ad-Dajjal, il a les mêmes pouvoirs, sauf qu'il va les utiliser à mauvais escient.
Ouais, le mal.
Pourquoi je dis tout cela? Je voudrais expliquer que, voilà, le Messie ad-Dajjal, quand il viendra, comme le prophète l'a dit, « Ma'ahu sama'un tumtir ». Il a avec lui une pluie, en quelque sorte, salvatrice, qui descend quand il le demande. À sa demande, les terres produisent toutes les richesses du monde, toutes les bonnes choses qu'elles peuvent produire. Et, ma foi, nous ne pouvons que prier Dieu de ne pas être tentés et séduits par cette entité malfaisante. Et je reviens à tout ce que nous avons dit pendant toutes ces émissions. Focalisez sur vous-même, ne focalisez pas sur le Messie ad-Dajjal. Et quand vous êtes dans une mosquée et que l'imam de la mosquée vous parle de l'arrivée du Dajjal à Médine, il tentera d'entrer, il ne le pourra pas. Et au moment où il veut passer le seuil qui est protégé par des anges, tout Médine tremblera, ce qui provoquera une panique qui fera que les gens qui ont dans leur cœur ne serait-ce qu'un atome d'hypocrisie sortiront en courant et iront le rejoindre finalement. Vous imaginez, il se peut que parmi ces gens-là, il se peut qu'il y ait des gens qui sont peut-être partis du Maghreb jusqu'à Médine, peut-être à pied, juste pour être sauvés de l'antéchrist, Mais une fois sur place, alors qu'ils sont dans un sanctuaire qu'ils ne peuvent en aucun cas pénétrer, ils seront pris d'une panique qui les fera sortir. Et une fois dehors, ils rejoindront ces légions. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient en eux une part d'hypocrisie. Et si nous disons cela et que nous le répétons, il n'y a pas longtemps, moi j'ai vu sur les réseaux sociaux un Américain, on m'a dit c'est l'un des plus grands fans de Ronaldo, qui est un grand joueur de football et qui mérite le respect quand on voit toutes les œuvres caritatives dont il est l'auteur. Mais moi ce qui m'a frappé, c'est que cet ignare, il n'a ni sa main un tomter comme le Messie Dajjal, ni pouvoir, ni beauté, ni intelligence, il n'a rien, absolument rien. Et pour preuve, il a même été à la base d'un comportement qui dénote la plus mauvaise des éducations. Et il faut voir comment nos ignares l'ont suivi. À côté de ceux qui étaient en train de l'aduler ici à Alger, les moutons de Panurge font office de philosophes. Subhanallah wa bihamdih. Donc, il s'agit de choses que tout le monde doit connaître, mais comment les mettre cette connaissance à profit? Tout l'enjeu est là.
Est-ce que c'est faisable et le message passe mieux à travers une émission de radio comme la nôtre au cœur de l'islam, Kamal Chekat?
Je l'espère, je ne peux que l'espérer.
Nous attendons le retour de nos auditeurs et Inch'Allah. On verra. Alors Kamal Chekat, en parlant de cette exégèse contemporaine du Coran, vous m'avez fait rappeler un verset qu'on a déjà évoqué dans nos émissions. C'est celui où il est dit « Rabbana arina alladhina adhallana min al-jinni wal-insi naj'alhuma tahta aqdamina ».
Oui.
Quelqu'un est sorti ces dernières années, quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur l'antichrist,
oui.
C'est Ahmed Abdelkarim al-Juhari, qui disait que « Ladaini adallana min al-jinni wal-ins », le djinn il est connu, mais l'ins c'est certainement le Mu'ammer, Samiri, le Dajjal.
Oui.
Ça c'est une lecture contemporaine.
Oui, Samiri c'est une autre personnalité. Ça n'a absolument rien à voir avec le Messie Dajjal, qui est une personnalité qui fait partie intégrante de l'eschatologie.
Oui.
Ce n'est pas un être humain, pratiquement. Ce n'est pas un être humain. Je ne pense pas que ça puisse être un être humain. D'ailleurs, à la vue de Jésus, alayhi salam, il fondra comme du sel dans l'eau. C'est ce qui lui arrivera.
Mais rappelez-vous, Kamal Chekat, le récit de Tamim Dari.
Oui.
Que disait la bête à Tamim Dari et à ses compagnons?
Elle leur a posé un certain nombre de questions.
Elle leur a
par
dit
exemple,
qu'il y avait un homme qui les attendait avec impatience. Un homme. Elle
oui.
a dit un homme.
Oui, Rajulun, peut-être parce qu'elle voulait leur donner comme information qu'il avait l'apparence d'un être humain. Mais quand ils l'ont vu, Tamim Dari, quand il a fait la description de cette entité au messager de Dieu, alayhi salatu salam, il a parlé d'un géant enchaîné. Mmh. C'est ça.
L'Amalek qui vivait en Palestine, Kamal Chekat, c'était des humains.
Oui.
Mais... Ahl-Ad, qu'on dit qu'ils étaient de taille énorme.
Écoutez, cette taille énorme, elle existe toujours. Hein. Vous la trouverez même chez les Mongols actuellement.
Ouais.
Hein. Il y en a qui sont tout aussi grands que ceux qui étaient avec Genghis Khan. Donc, à mon avis, hein, c'est un avis qui ne met qui ne porte aucunement préjudice au dogme de l'islam. Hein, c'est-à-dire que nous sommes là dans des sujets autour desquels nous avons le droit d'avoir des réflexions. Ce qui m'importe, moi, dans tout cela, que ce soit un être humain ou une entité, on va dire extraterrestre, le problème reste le même. Que faire pour ne pas tomber dans les filets de l'Messie Dajjal? C'est tout ce qui m'importe.
Et c'est tout le monde qui le suivra, Kamal Chekat.
Malheureusement, et j'espère ne pas faire partie du lot. C'est tout ce que je peux... Vous savez, nous devons lire les débuts ou la fin de Sourate Al-Kahf régulièrement, en espérant que cela nous serve de quelque chose qui va nous préserver de cette tentation, de cette séduction de l'antéchrist. Nous savons que le messager de Dieu, alayhi salatu wasalam, a dit, il y a près de 15 siècles de cela, il n'y a pas un prophète qui n'ait mis en garde son peuple contre l'antéchrist. Vous imaginez ceci parce que cette épreuve, elle est terrible. Fitnatun kubra. Amin ya Rab. Et le problème, c'est que quand nous voyons la culture générale ou ce qui fait office de culture actuellement, cette culture à deux balles qui circule, même dans les milieux religieux, on se rend compte que nous sommes en train, du moins c'est mon avis, que nous sommes en train de passer à côté de l'essentiel. Et je reviens toujours sur ce point central. Concentrez-vous sur vous-même, sur votre comportement, sur votre dogme, aqida, sur votre foi. Ne vous concentrez nullement sur les apparences ou sur l'islamité ou la religiosité des autres.
Kamashekat, vous dites que assez souvent nous passons à côté de l'essentiel, mais quand vous voyez le déroulement de l'année, à chaque saison, de façon régulière, il y a des cycles, il y a des rappels de Dieu qui nous font que nous recentrons sur l'essentiel. Comme ce mois de Ramadan.
Oui.
On dit que le mois de Ramadan, c'est le mois du changement, le mois du reset. Si on ne change pas durant Ramadan, c'est que finalement on a raté le coche.
Absolument.
On a parlé en début d'émission, j'ai parlé en début d'émission de cette énergie de Ramadan, Kamal Chekat.
Oui.
Et beaucoup de savants en parlent ces derniers temps. Comment
oui.
vous l'expliquez, cette énergie? Et comment elle agit sur nous tout au long de l'année?
Oui, mais cette énergie, est-ce qu'elle fait son œuvre en nous?
Oui.
Comme elle l'a faite pour les premiers musulmans. Tout le problème est là.
Mais pour qu'il y ait énergie, comment devrions-nous nous comporter, Kamal Chekat?
En conséquence, c'est-à-dire être conforme au décret de Dieu, comme on dit. Écoutez, moi ce que je remarque, c'est que quand Ramadan arrive, nous faisons exactement le contraire de ce qui est souhaité pendant le mois de Ramadan.
Ah non, Kamal Chekat, je vous arrête.
Comment ça?
Nous jeûnons tous, vous voyez les mosquées pleines lors
oui.
du Tarawih.
Oui.
Mais ça va, on est de bons pratiquants.
Oui, tout ça c'est du pipeau, je suis désolé.
La
tout
vitrine ça, nous montre des images excellentes.
La vitrine, oui, la vitrine. Que trouve-t-on dans le fond de la marmite? C'est ça qui est important. Écoutez, tout ça c'est bien, ça mérite d'être encouragé, c'est une bonne chose. Sauf que c'est un mois où notre consommation décuple, ça c'est un problème. Je me souviens, il y a quelques années, j'ai participé à une campagne de sensibilisation contre le gaspillage avec, nous avons ici en Algérie, une agence qui étudie le phénomène, et j'étais ahuri de savoir que pendant le mois de Ramadan, nous gaspillons quelque chose comme 11 millions de baguettes. Vous imaginez?
Cela a été le combat oui. durant plusieurs années de Monsieur Qoli,
Laïd
Kroubel Khair.
Et le problème, c'est que dans un certain nombre d'interventions que j'ai eu à faire concernant ce mois de Ramadan, je me suis posé beaucoup de questions au sujet du jeûne lui-même, sa vocation. Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba 'alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Peut-être seriez-vous pieux. La piété, c'est un état, c'est l'un des états de la foi qui est quand même assez supérieur. Ou c'est le tremplin, c'est la passerelle qui va vous mener directement vers l'ihsan. C'est-à-dire que si vous êtes pieux, vous avez dépassé l'islamité, vous avez dépassé l'iman, et vous êtes vraiment dans une position intermédiaire entre, que si nous nous référons au hadith de Jibril, entre l'iman et l'ihsan. L'ihsan, comme nous avons pris l'habitude de le traduire, nous avons choisi la traduction de Jacques Berg qui est plus qu'excellente, c'est le bel agir.
Alors que d'autres ont choisi le terme excellence, Kamal Chekat.
Oui. L'excellence, ça peut se faire même au niveau du sentiment. Mais le bel agir, ça vous met dans une citoyenneté active.
Ça veut dire voir Dieu partout, dans tout.
Oui, on appelle cela, ulama usuluk, appelle cela muraqabatullah. Ça veut dire quoi? Le muraqaba, c'est l'observation. Mais ici, c'est l'observance de Dieu. C'est-à-dire que dans tout ce que vous faites, oui, vous allez, avant d'agir, avant même de réfléchir, vous allez vous poser la question. Est-ce que ce que je vais faire plaira à Dieu ou pas? C'est-à-dire que dans tout ce que vous faites, vous allez rechercher en premier lieu l'agrément de Dieu, ridallah.
Donc vous êtes dans cette fameuse citation de l'imam Ali Kamal Chekat qui disait « Ma ra'aytu shay'an illa wa ra'aytu Allah qablahu wa ba'dahu wa ma'ahu wa fihi ».
Absolument. Sans pour autant tomber dans l'incarnation.
Non, ça n'a rien à voir.
Oui, ça n'a absolument rien à voir.
C'est cette crainte de Dieu dont vous parliez
oui,
de la semaine précédente.
Qui est omniprésente. Donc, La'allakum tattaqoun. Nous savons que l'islam est une religion qui a combattu la pauvreté. Nous avons des hadith da'if, où le messager de Dieu, alayhi salatu salam, dit « Kad al-faqru an yakuna kufra ». Ça, c'est Omar ibn al-Khattab. Le hadith que nous avons cité, il est jugé faible. Il comporte quelques vices dans sa chaîne de transmission. Mais nous avons une supplique, dua, du messager de Dieu, alayhi salatu salam, qu'il répétait très très souvent. Allahumma inni a'udu bika min al-kufri wal-faqri wa adab al-qabr. Seigneur Dieu, je me réfugie auprès de toi de la mécréance, de l'indigence ou la pauvreté et du supplice de la tombe. C'est frappant de voir cette proximité entre la mécréance et la pauvreté. Le kufr ou le faqr. Pourquoi? Parce que quand vous êtes riche, il vous empêche de dépenser dans le sentier d'Allah. Mais quand vous êtes pauvre, le travail d'Iblis devient plus facile dans la mesure où il viendra vous dire « Écoute, tu as faim, va voler, tu as faim. » Et ces gens-là, ils n'ont qu'à te donner à manger. Va voler, va, fais ce que tu veux. Si tu as la possibilité de t'enrichir en spoliant les autres, fais-le. De toute manière, toi, personne n'a eu de pitié pour toi, etc. « Yufti linnas wa yuziyinu lahum al-a'mal » C'est-à-dire qu'il va enjoliver cette action pour qui veut l'entendre. Donc, nous avons une religion qui n'aime pas la pauvreté, qui la combat, et dont les obligations même de notre religion, le musulman est censé avoir un minimum de richesse pour pouvoir avoir accès à certaines obligations, comme zakat par exemple. Pour s'en acquitter, il faut quand même que vous atteigniez une somme légale minimale, ce qu'on pourrait aussi appeler un koroum, qu'on appelle en langue arabe nisab. Et pour faire votre pèlerinage, il vous faut de l'argent aussi. Il faut quand même être plus ou moins bien nanti. Il faut savoir que lors des premiers siècles de l'islam, jusqu'à il y a peut-être deux ou trois siècles, les gens avant de partir au pèlerinage étaient dans l'obligation d'assurer la subsistance des leurs pendant une année, parce que le voyage à lui seul pouvait prendre au moins 6 à 7 mois, voire plus. Donc, d'un côté, vous avez une religion qui combat toutes les formes de pauvreté ou d'indigence, ce qui a emmené Karen Armstrong à écrire son fameux livre « Mohammed, un prophète pour notre époque » en 2011, où elle a travaillé sur ça. Elle a surtout montré que le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, sur le plan social et même sur le plan psychologique, il a fait en sorte que les musulmans aient cette envie d'être riches et d'être instruits, parce qu'il a combattu l'ignorance et la pauvreté. Et d'un autre côté, le jeûne qui est synonyme de faim, c'est-à-dire vous affamez votre être de manière délibérée, cette même faim qui peut conduire à la mécréance, elle va vous conduire vers la piété. De prime abord, nous sommes sur un non-sens. Et ça dépasse le paradoxe. Le problème, c'est que cette piété, justement, elle peut arriver grâce au jeûne, grâce à la faim, dans la mesure où cette faim, cette abstention de manger et de boire peut réparer le corps. La cétogénèse, la phagothérapie, et j'en passe, ce que les médecins vous diront à ce sujet peut vous laisser sans voix. Nous savons qu'une bonne alimentation, très peu généralement, par exemple à Okinawa, les gens vivent jusqu'à 130 ans. Ils se livrent à un système qu'ils appellent le harashibu. Ils mettent en application, en pratique, un hadith qu'on attribue au messager de Dieu, alayhi salatu salam, qui est jugé faible par les narrateurs, par les spécialistes, et qui dit « Nous sommes une communauté, nahnu qawmun la na'kulu hatta najou', qui ne mange que si elle a faim, wa idha akalna fala nashba'. » Et quand nous ne mangeons pas à satiété. Les Japonais d'Okinawa se lèvent de table en ayant faim, carrément. C'est-à-dire que c'est des gens qui mangent vraiment le strict minimum. Et il paraît, quand quelqu'un meurt à 100 ou à 110 ans, on dit « Ah tiens, il est mort jeune ouais. ». Vous imaginez? Ça, c'est une information qui corrobore les mérites du jeune sur le plan au niveau de la santé. Mais quand j'ai un ami, Samir Kabour, que je salue au passage, qui est nutrithérapeute et qui fait du très bon travail, quand il a balancé cela dans un post sur les réseaux sociaux, beaucoup se sont carrément indignés en disant « Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit « Amaru ummati bayna sittina ou sib'id »« Qu'est-ce que tu es en train de nous raconter ?» Et puis ça va à l'encontre de l'qada ou l'qadar. Non, ça ne va pas à l'encontre de l'qada ou l'qadar. Parce que ce qui a été écrit, ce qui a été écrit par le kalam dans la table gardée, c'est des séquences de temps qui se sont déroulées pour Dieu, mais qui ne se sont pas encore déroulées pour nous. Le temps finalement, le Coran ouvre le débat sur des sujets terribles dans la mesure où le temps finalement, c'est ce qu'on appelle la flèche d'Eddington, où le temps va inexorablement du passé vers le futur. Finalement, avec la physique quantique, il a été démontré que ça ne tenait pas debout. Le temps, il fait des va-et-vient comme il veut, et il nous arrive, nous, êtres humains, que notre futur influe un peu ou impacte notre passé. Oui. C'est terrible, hein, oui. La rétrocausalité. Ça veut dire que ces gens-là, les Japonais d'Okinawa, ils ont eu une vie tellement saine que cela a amélioré leur santé et fait en sorte qu'il y ait une certaine longévité dans leur vie, tout simplement. Ça ne va aucunement à l'encontre de l'qada ou l'qadar. Donc, pour revenir au Messie Dajjal et j'en passe, et puis Ramadan, la piété, etc., nous sommes toujours, nous, dans le paraître. Nous n'allons pas au fond. C'est comme si vous donniez une orange à quelqu'un et que la personne en question va manger la peau plutôt que de manger la pulpe.
On va choisir carrément un jus d'orange industriel.
Oui.
Avec tout ce qu'on y rajoute.
لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك يا مولاي.
Ce que vous dites là, Kamel Chekat, me plonge dans une poésie de l'Akhdari. Dans quelques passages, il dit « Ya jahilan bimansib al-kamali wa taliban hadid al-anfali alastada aqlin wa basira alam takun munawwara sarira hujibta bil-ala'iq al-nafsiya an hadihi al-maratib al-qudusiya ramadan radita bil-maratib al-khasisa bijahlika al-maratib al-nafisa ya mula'an bil-alam al-jismani wa jahilan bil-alam al-ruhani فكم خدمت الجسم يا بطال ولست من خدمته تبالي هل خدمت الروح يا مغرورة هيهات قد حجبت عنك النور.
Oui, c'est la vision matérialiste du monde. C'est ça, c'est-à-dire que nous avons délaissé l'essentiel. Certains pourraient nous dire, oui, bon, il est facile de dire tout cela, mais bien sûr qu'il est facile de dire tout cela parce qu'il est possible d'être dans cette logique, dans la mesure où l'expérience humaine nous a montré que le fait d'avoir un équilibre dans la vie, ça ne peut qu'apporter des bonnes choses. Nous le disons à tout le monde, personne ne vous demande de devenir des zuhad, des anachorètes. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, en parlant à Abu Bakr et Handala, a dit ça à telle façon, une heure pour la vie d'ici-bas, une heure pour la vie de l'au-delà, tout simplement. Il est tout à fait possible d'être dans ce juste milieu durable qui va faire de nous des êtres humains à part entière. Tout cela est facile à accomplir.
Nous perdons notre conscience, notre lucidité, absolument, même durant Ramadan. Oui. Finalement, ce changement n'arrivera pas.
Écoutez, le problème est là. Le problème, c'est que vous êtes dans les rues d'Alger, déjà à partir de 14h, 14h30, ce que j'ai remarqué. Vous avez des embouteillages terribles parce que les gens quittent leur lieu de travail pour aller vaquer à d'autres occupations.
Sachant, le rush sur les quartiers populaires.
Oui, pour acheter qalbelouz, sherbet et je ne sais pas. Et puis vous avez des gens. Moi, je connais des gens qui font des dizaines de kilomètres pour aller à tel endroit acheter Zlabia. Ensuite, il va aux antipodes pour acheter sherbet.
À la recherche de Eden Maghrib.
Au niveau d'un trottoir comme ça, avec quelqu'un qui vend aucune hygiène, aucune. Et c'est des gens instruits, hein. C'est pas l'Algérien lambda comme ça. Et puis, c'est ces mêmes personnes, à 16 heures, vous avez tous ceux qui ne travaillent pas, qui sont dans l'oisiveté la plus totale, qui se réveillent. Alors avec eux, c'est les problèmes qui commencent, c'est les rixes, les incivilités. Ensuite, c'est tout ce beau monde, tout ce melting pot que vous allez retrouver dans les mosquées. Dans les mosquées, vous avez d'autres personnes qui courent pour aller faire Salat al-Maghrib en congrégation, Jama'a. Et au moment de quitter la mosquée, le bon petit musulman, il enlève sa veste, il la plie soigneusement et il la pose pour réserver sa place dans le premier rang. Il descend ensuite chez lui, se goinfre comme pas possible, il remonte à la mosquée avec ses remontées d'huile, ses flatulences et toutes les mauvaises odeurs que peut dégager son haleine. Et il va, vous le voyez, enjamber les gens comme ça pour aller vers la place. Et il y a des gens qui s'insurgent. « Mais qu'est-ce que tu veux faire, c'est plein ?» Il dit « Non, je vais vers ma place. » C'est un droit. Et il va faire Salat Tarawih, qui est une prière surérogatoire, en ayant bafoué je ne sais combien de droits de ceux de ses frères, sans parler de ceux qui habitent à moins de 2 kilomètres de la mosquée, qui viennent en voiture, qui ne trouvent pas où parquer et qui mettent leur voiture devant des portes de sortie de maison ou des garages, bloquant tout le monde, mais alors sans se soucier de qui que ce soit. Et si vous leur dites ils vous diront on a l'impression que tout l'islam ne tient qu'à la présence de cette personne-là dans la mosquée.
On a Dieu, j'ai l'impression qu'à Mashakat, on a Dieu que pour cette pratique culturelle, on oui. l'extrait de tout ce qui l'entoure. Tout ce qui l'entoure n'est pas important.
Oui, absolument. Et le problème, c'est que nous sommes dans une pratique surérogatoire, nafila. Ce n'est même pas une obligation. Et c'est ça, moi, ce que je suis en train de vous raconter, c'est ce que je vois dans le côté homme, on va dire.
C'est
Moussallah Rijal. Oui. Si vous alliez dans là où il y a les femmes, vous avez de bonnes musulmanes algériennes qui montent à la mosquée avec des bambins de 2 ans.
Oui.
Elle est en train de faire soi-disant ses tarawih, ou bien de discuter et papoter avec je ne sais qui, et l'enfant, il est en train de crier, de pleurer, de... Je ne vous raconte pas comme ça les enfants qui, avec les mauvaises odeurs, avec leurs couches, avec je ne sais... C'est terrible. Et malheureusement, tout ça, je me souviens, j'ai été imam de 89 à 94. Nous ne cessions de faire des remarques pendant le mois de Ramadan au sujet de tous ces défauts que je viens de vous énumérer. La situation n'a pas changé d'un iota. À l'heure actuelle.
On m'a raconté, Kamel Chakat, que dans une des mosquées de Bab Hassan l'année dernière, l'imam hurlait au moment des tarawih au sujet des enfants qui gambadaient, qui criaillaient.
Oui. Oui.
Et les mamans étaient absentes, bien sûr.
Oui, bien
elles,
sûr.
Elles faisaient leurs prières. Hein.
Oui. Et encore heureux que ces dames-là ne l'aient pas insultées, quoi, ouvertement.
Donc cette tijara de Ramadan, Kamel Chakat, comme dirait l'imam al-Akhdari, فلو علمت هذه التجارة لم تعتبر من دونها خسارة يا جاهلا بقلبه وما حوام مشتغلا بالشهوات والهوى لو غصت في بحرك يا مغرورا وجدت فيه لؤلؤا منثورا.
Oui, et nous, justement, nous restons à la surface de toute chose. C'est-à-dire que nous n'allons jamais dans la profondeur des choses. Et tout ça, avec le temps, ça va nous coûter cher, dans la mesure où. Là, il va falloir revenir sur le Coran et tout ce qu'il nous enseigne sur le plan sociologique de l'évolution ou bien de la déviation, de la décadence d'une société. Nous sommes à une époque où le châtiment de Dieu ne tombe pas sur nous comme il tombait sur les peuples révolus. Une pluie de pierres, tofan, ou bien, je ne sais pas moi, rih, un vent mugissant qui va... Non, il n'y a pas ça. Maintenant, c'est la dégradation de la qualité de la vie. وَكَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ. Combien de cités n'avons-nous pas détruites? Alors, quels sont les signes de cette destruction? C'est des puits à sécher et c'est des édifices qui tombent en ruine. Ça veut dire que le châtiment de Dieu peut se manifester par une absence totale de civisme dans les sociétés. Et c'est ce que nous sommes en train de remarquer. C'est-à-dire que vous sortez de chez vous le matin, vous êtes pratiquement sous la pesanteur, sous une peur terrible que vous n'arrivez pas à expliquer. Vous avez peur pour les vôtres, vous avez peur d'être agressé dans la rue, vous avez peur d'une multitude de choses parce qu'il y a une absence de l'autorité, parce qu'il y a une absence de conscience. Nous n'avons plus ce civisme qu'avaient nos grands-parents il y a à peine 50 ou 70 ans. Tout le problème est là. Et le fait d'être dans des mosquées avec des comportements aussi barbares, aussi sauvages, indique que nous avons travesti la religion, que nous sommes en train de faire en sorte que ce soit la religion qui suive notre logique et non l'inverse. Et ça me rappelle Mohamed Al-Ghazali, rahmatullahi alayhi, qui parlait une fois de certains musulmans et qui dit À l'époque de la révélation, il y avait deux périodes, celle de la Jahiliya, c'est-à-dire du paganisme, et celle de l'islam. Actuellement, nous sommes plein pied dans l'islam, mais nous avons institué dans cet islam une Jahiliya qui est la nôtre. Et il est là le problème.
C'est terrible. Donc, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى, c'est l'objectif de ce mois-ci de Ramadan.
Oui, c'est comme quand vous parlez de la prière, إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Quand vous parlez du jeûne, le jeûne, il a pour vocation de vous faire accéder à cette sphère qui est celle de la piété, c'est-à-dire taqwa. Et remarquez que quand le Coran nous parle de ceux qui ont été rattrapés par la mort, le Coran al-Karim nous dit, par exemple, حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ. Quand la mort atteint l'un d'eux ou le survient pour l'un d'eux, il dit, Seigneur, faites-moi retourner dans la vie d'ici-bas. لَعَلِّيَ أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ. Peut-être ferai-je quelques biens dans ce que je délaissais. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de retour. Dans Sourate Al-Munafiqoun, il est dit وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ. Qu'est-ce qu'il fait ? فَأَصَّدَّقَ وَأَكُلْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferai l'aumône et je serai parmi les gens de bien. Généralement, vous n'avez pas rencontré des gens qui vous disent « Ah, ce que ça serait bien de mourir en pleine prosternation. » Tout le monde rêve de cela, même ceux qui ne font pas la prière. Tout le problème est là. Mais là, cette personne qui a ouvert les yeux sur ce que j'appelle la vérité vraie, c'est-à-dire que vous avez là deux versets qui indiquent que non seulement ces gens-là ont pris conscience qu'il y a une vie après la mort, que la mort n'est qu'une petite rupture, un intervalle que nous allons passer, que nous appelons « alamul barzakh », le monde de l'isthme, mais que finalement, et ces gens-là, ils souhaitent revenir, non pas pour faire deux génuflexions, mais pour faire une aumône, pour faire quelque chose qui apporte un bien aux autres. Tout l'enjeu est là. Donc finalement, quand nous parlons de piété, nous sommes aussi dans des dispositions physiques qui font de nous des êtres humains à part entière. Et ma foi, quand j'explique tout cela aux gens, j'essaye d'expliquer selon ce que j'ai en connaissance de la part de ce que m'ont appris des médecins. Vous avez une bonne alimentation, le matin surtout. Vous avez un bon petit déjeuner, même en dehors du mois de Ramadan. Le Ramadan, il fait une œuvre terrible, hein, c'est-à-dire que vous avez les bonnes cellules qui deviennent cannibales et qui mangent les mauvaises cellules, c'est-à-dire que votre corps est en train de se purifier de l'intérieur. Mais en dehors de Ramadan, je ne sais pas si nous en avons déjà parlé, mais vous prenez un bon petit déjeuner, un petit déjeuner sain. C'est pas du café au lait avec sucre et de la viennoiserie et des jus d'orange pressés. Voilà. Tout ça, c'est du poison. Vous prenez de l'huile, du bon fromage, du bon gras, du bon pain, etc.
Du pain d'orge imbibé dans de l'huile d'olive,
oui.
Des raisins secs, des figues
séchées. Ce que nos anciens peuples prenaient avant la colonisation. Vous avez votre corps qui va bien profiter de ces bons gras. Ça va favoriser le renforcement de vos parois cellulaires. Ça va favoriser la sécrétion de sérotonine, hormone de la foi pour certains, qui est l'hormone anti-stress, anti-douleur. Ceci va favoriser une sécrétion de mélatonine en fin de journée. Vous allez passer une journée bien. C'est-à-dire que vous êtes dans de bonnes dispositions mentales et physiques. Vous faites l'inverse, comme le font la majorité, café ou lait avec sucre, croissant et j'en passe. Et vous êtes à 10 heures, vous avez une fringale. À midi, vous allez vous goinfrer, sans même comprendre pourquoi. Oui. Et c'est le corps, il entre en état d'alerte, hein, il se bat contre le pic glycémique hein, que vous lui avez infligé. Et si nos corps pouvaient nous insulter, nous entendrions, comme dirait l'autre, l'anjab ou l'oujab. Et à partir de 2h, 14h, vous avez un coup de barre qui va vous mettre dans tous vos états, vous ne comprenez pas ce que vous avez, et là c'est la boulimie, vous allez manger, vous allez remanger, vous ne cessez de manger sans même comprendre pourquoi vous êtes en train de le faire. Et vous êtes
dans... Il y a une addiction.
Oui, et vous êtes irrité, vous avez un... Et bien sûr, vous allez avoir un mauvais comportement.
Pire que l'addiction à la cocaïne.
Pour le sucre, certains disent que c'est pire que de la cocaïne. Donc, quand le verset nous dit « la'allakum tattaqoun », ceci veut dire que l'alimentation, Une bonne alimentation, contrairement à la malbouffe, la street food, va vous mettre dans des dispositions mentales et physiques qui font de vous un être humain à part entière. Je ne suis pas en train de dire par là qu'il est interdit de consommer des sodas, qu'il est interdit d'aller manger de temps à autre dans un resto, de manger à l'extérieur de la maison. Loin de moi cette idée. Je veux juste expliquer qu'il y a une corrélation entre tous les versets du Coran, et quand on étudie le Coran de A à Z, on se rend compte qu'au-delà du culte, ici nous venons de le démontrer par deux versets qui nous parlent de gens qui ont eu accès à la vérité vraie, et le problème c'est que le Coran il en parle au passé, au prétérite, alors que c'est quelque chose qui va arriver, ou qui est censé arriver dans le futur de celui qui est dans ce monde. Et tout ceci indique que la finalité même de chaque acte cultuel, l'ibadat, ne peut que mener en définitive, ou ce qui est souhaité derrière le culte, c'est d'arriver à faire partie ou à mériter son titre d'être humain et se démarquer du monde animal.
Kamashekat, au cœur de l'islam, est une émission philosophico-religieuse, mais essentiellement religieuse. Et là, vous nous parlez de nutrition et de malbouffe.
Oui.
Quelle est la relation ?
La relation, vous allez
certains
la retrouver.
Certains pourraient poser cette question.
Les deux choses sont intimement liées. Quand vous étudiez le cheminement des prophètes, ou bien le cheminement des anachorètes, zuhad, vous allez vous rendre compte que leur faculté à dompter leurs pulsions est passée par l'alimentation en premier lieu. C'est ce qu'ils ont maîtrisé en premier lieu. Le jeûne, il est connu dans la plus haute antiquité. Ce qui le rend plus noble dans les religions, c'est le fait de le faire pour avoir l'agrément de Dieu.
C'était l'élite qui le faisait, Kamel Chakra.
Tout simplement. Et ce qui est bien dans le jeûne, c'est que c'est le seul culte que l'on ne peut rendre qu'à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Nous n'avons aucun récit, aucun témoignage des peuples révolus qui nous disent que les gens vouaient des jeûnes à leurs idoles. Les idoles, on leur donnait des offrandes, on égorgeait des bêtes pour eux, on faisait des sacrifices, des danses, des gestuels, mais jamais le jeûne. C'est pour cela que Dieu dit dans ce fameux hadith Qudsi, « Illa siyamu fa innahu li wa ana ajibe » Sauf le jeûne, il est pour moi, et je suis seul à pouvoir en donner rétribution.
Quand le prophète dit « Man samahu imanan wahtisaban », vous pensez qu'on est dans le iman, dans la deuxième station donc de la religion?
Écoutez,
ou l'ihtisab?
L'ihtisab, c'est le fait de compter sur cette clémence de Dieu qui vous ferait bénéficier des biens de ce mois, des mérites de ce mois, en termes de miséricorde, de pardon, de repentir, etc.
Mais si l'istiqama manque à l'appel, Kamel Chekat?
Écoutez,
la rectitude, c'est
oui,
ça l'istiqama?
Oui, c'est ça la rectitude, c'est le fait d'être sur le droit chemin. Nous sommes à une époque où il y a beaucoup de gens qui jeûnent mais qui n'accomplissent pas leurs prières. Certains viendront vous dire, il n'a pas son jeûne, il ne peut pas être accepté. Nous ne pouvons en aucun cas, et nous n'avons pas le droit d'ailleurs de le faire, nous ne pouvons en aucun cas nous porter juge sur la foi des autres. Ça, c'est du ressort de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Nous ne pouvons qu'espérer que tous ceux qui jeûnent fassent partie de cette communauté de l'iman, de la foi. Et c'est l'opinion que j'ai de tout le monde, hein. Même si je vois un mauvais comportement dans la rue, ce qui m'attristerait, c'est que c'est le comportement d'un mauvais musulman ou de quelqu'un qui est censé être meilleur que ça. C'est ça qui m'attriste. Je ne me porte nullement juge sur la foi de la personne en question. Mais il n'en demeure pas moins que les mauvaises choses que nous voyons dans la rue, même dans les mosquées maintenant, sont des comportements qui n'ont absolument rien à voir avec l'éthique musulmane.
Thank you.
Alors nous nous rapprochons doucement mais sûrement de la fin de ce numéro d'aujourd'hui, le deuxième vendredi du mois de Ramadan, le neuvième jour de ce mois béni. Alors cette émission est un prélude à la septième clé que vous proposerez à nos amis auditeurs la semaine prochaine.
Inch'Allah.
Mais nous avons déjà commencé à parler de cette piété qui est l'objectif ultime du mois de Ramadan. Oui. La piété qui est d'ailleurs une des grandes stations spirituelles chez les grands maîtres de ilm tazkiya. C'est même un grand maqam selon ce qu'écrit Sarraj Tosi dans son fameux livre qui est un manuel du soufisme Kitab l'Umma. Alors la piété Kamel Shekat a besoin de beaucoup d'autres qualités pour être atteinte.
Oui.
On vient de parler de l'istiqama, la crainte de Dieu.
Oui.
Agir simplement, éviter de faire du mal aux autres.
Ça c'est éviter de faire du mal aux autres. Ça me renvoie vers un hadith d'Abu Dharr qui est venu demander au messager de Dieu, alayhi salatu salam, quelle était la meilleure œuvre. Il lui dit, c'est le djihad dans le sentier de Dieu. Bien entendu, quand nous parlons de djihad, nous ne parlons pas du djihad des groupes terroristes que nous voyons qui actuellement et qui travaillent essentiellement pour le sionisme. Nous parlons de djihad à l'image ou à l'exemple de ce qui a été fait par nos martyrs, par nos combattants ici en Algérie durant la période coloniale. Le djihad, c'est un retour à la dignité humaine, c'est-à-dire c'est un refus de la soumission au tyran, tout simplement. Et donc il lui dit, c'est ça la meilleure œuvre, parce qu'il n'est pas du tout facile d'emprunter ce sentier, de donner sa vie pour un idéal. D'accord. Et donc, il lui dit, et qu'est-ce qu'il y a ensuite? À l'époque, il y avait l'esclavage. Il lui dit, la deuxième chose, c'est d'affranchir un esclave. Et quel est le meilleur esclave à affranchir? Celui, normalement, qui a la plus grosse côte auprès de ses propriétaires. Ah, bon. Et si je ne peux rien faire de tout cela, il lui dit, alors, si tu ne peux rien faire de tout cela, tu aides quelqu'un à fabriquer quelque chose, ou bien tu aides quelqu'un à porter quelque chose. En tout cas, tu fais quelque chose pour, tu fabriques ou tu aides quelqu'un à fabriquer quelque chose. Quelque chose comme ça. Et si je ne peux rien faire de tout cela au messager de Dieu, il lui dit, tu épargnes ton mal aux autres. Et c'est cela comme une aumône. Cela est considéré comme une aumône que tu fais pour toi-même. Donc, ne pas faire de mal, c'est le minimum, parce que l'islam nous engage dans l'action. Nous ne sommes pas censés rester passibles ou inertes. Nous sommes censés agir dans le bon sens. Maintenant, si on ne peut pas le faire, il ne faut pas aller dans le mauvais sens.
Kamel Shekat, je terminerai avec deux points. D'abord la poésie de l'imam al-Akhtari, des passages de Mandomatihi fi Tasawwuf. Alors il dit faj'al akhi hammaka hamman wahidan takun lima tatlubuhu mushahidan. Man kana fi nayl al-kamal radiyan wa an shari'ati ar-rasul na'iyan fa innahu mublisun maftunun aw 'aqluhu mukhabbalun majnun hadha muhal la yasihu abadan li anna sayyid al-wara babul huda. Kamel Shekat.
Bon, vous avez cité beaucoup de poésie, vous avez lu beaucoup de poésie aujourd'hui. Elles sont très relevées dans la mesure où elles sont très très belles. Vous me les auriez données avant l'émission, on aurait pu tenter d'en faire une petite traduction. Mais tout ce que vous avez cité jusqu'à présent...
13e siècle, Akhdari.
Oui, exhorte les gens à aller vers l'essentiel. Et de ne pas se laisser contenter par le superficiel. C'est ce qui a été dit depuis le début. Celui qui se met en quête de l'excellence, mais qui, parallèlement à cela, délaisse la tradition de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un qui l'action est ubuesque en quelque sorte.
Alors le deuxième point avant de clore cette émission, je voudrais vous faire réagir sur cette prière que nous enjoint le prophète alayhi salatu wasalam à faire lorsque ça va mal un peu pour nous. Allahumma inni 'abduka ibn 'abdika ibn amatika nasiyati biyadika madin fiya hukmuka 'adlun fiya qada'uka.
Oui.
Alors
ça veut dire que
bon, nasiyati biyadika?
Nasiya c'est la le toupet. Hein? C'est la partie préfrontale. Avant, oui, préfrontale. Mm. C'est un centre de décision. Mm. C'est pour ça qu'il est cité dans le Coran. Oui, dans le Coran et la tradition. Je suis ton serviteur, fils de ton serviteur et de ta servante. Mardin fiya hukmuk. Ça veut dire que je subirai tes décrets. Et là, attention, la chose ne s'oppose aucunement au libre arbitre dont nous a doté Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il est dit, adlun fiya qada'uk. C'est-à-dire que tout ce que tu as décrété me concernant ne peut émaner que de ta toute justice. C'est-à-dire que ça ne pourrait qu'être juste à mon égard.
Avons-nous réellement assimilé cette partie nasiyati biyadika?
Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous répondre et là vous me prenez de court parce que je suis en train de me poser la question puisque vous la posez. Nasiyati biyadika, je n'y ai jamais réfléchi malheureusement. Mais je ne sais pas moi, nous avons des comportements, finalement la meilleure des réponses est la suivante. Si vous avez un comportement qui est conforme à l'éthique musulmane, ça veut dire que nasiyatuki biyadillah. Si vous ne l'avez pas,
ça veut dire ana muraqibatun lahu.
Oui, si vous n'avez pas un comportement qui est conforme à cette éthique, votre nasiya, elle restera toujours entre les mains de Dieu. Mm-hmm. Sauf qu'il vous a quelque peu délaissé et il vous a donné beaucoup plus de liberté d'action concernant ce que vous faites, de sorte à ce que sa miséricorde ne vous enveloppe plus, ne vous entoure plus, de sorte à ce que vous agissiez bien.
Ça dit de moi que je suis en pleine révolte comme l'a été le Iblis.
Oui, en quelque sorte.
Mardin fiya hukmuka, adlun fiya qada'uka.
Oui, si vous n'agissez pas bien, vous allez subir les décrets de Dieu. Ils ne peuvent être que justes à votre égard.
Salam, istislam, taslim.
Oui.
Le fond même de l'islam. Je vous remercie Kamel Chekat.
Vous en prie.
Je vous prie de m'excuser de vous avoir pris de court, mais je sais que Kamel Chekat a réponse à toutes les questions et je l'ai confirmé à maintes reprises. Merci à vous, merci de nous avoir suivis. Hassiamkom et à demain, Inch'Allah, pour les rediffusions du mois de Ramadan. Au revoir. لبيك قل لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك يا مولاي إلهنا ما عاد لك مليك قل لمن ملك لبيك قل لبيت لك لبيك إن الحمد لله وحده لا شريك له سبحانه ما أعظم والملك لا شريك له لبيك إن الحمد لله والعز له لا إله إلا هو
القويم المتين الغني اللطيف الخبير الحليم سبحانه ما عطل خليك كل من ملا لبيك قط لبيك لا لبيك إلا الحمد لله ارحمنا واسترنا واحفظنا من كل غلواء مرائي يا